et les effets, le service, il y a une unité profonde. Les deux se tiennent. Je ne peux pas les séparer. Je ne peux pas séparer les deux. Puisque l'affectus est source. Et donc, nécessairement, l'effet est relié à sa source. Donc, s'il y a une diversité d'exigences au point de vue de l'affectus, il y a une diversité au point de vue de l'affectus. Ça me semble du bon sens. Et la première théorie, ça me semblait quelque chose d'idéaliste. On fait une coupure entre le cœur et la main. Alors, il n'y a pas de coupure entre le cœur et la main. La main qui se met au service et le cœur qui aime. Il doit y avoir au contraire une unité, une harmonie entre les deux. C'est bien évident. Au point de vue de l'amour, hein, nous sommes dans l'ordre de l'amour. Alors, il y a un lien entre les deux. Un lien qui doit exister entre les deux. Et saint Thomas affirme qu'on ne doit pas aimer tout le monde du même amour, du même effectus, comme je n'aime pas tout le monde du même service. Alors, quel sera le principe qui va me permettre d'ordonner la diversité des effectus? C'est le principe. Plus je suis proche du principe. Donc, le principe de la charité, c'est Dieu. Et le second principe de la charité, c'est moi. Bien évident, parce que je suis source aussi. Quand j'aime le prochain, je suis source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. C'est propre de la charité. Dieu est source et je suis source. Et donc, ça dépend des deux proximités. Il y a donc deux ordres de charité par rapport au prochain. Celui qui est le plus proche de moi affectivement, celui qui est le plus proche de Dieu affectivement. Je dois donc normalement aimer plus le prochain que je sais aimer de Dieu plus. Et je dois aimer plus le prochain qui, de fait, est affectivement plus proche de moi. C'est très très beau comme manière de regarder les choses. Vous voyez, c'est pas du tout une espèce de d'attitude idéaliste, non, c'est très réaliste. Il y a les deux proximités. Il y a la proximité à l'égard de Dieu, c'est bien évident. Quand je me doute bien que cette personne est particulièrement aimée, ça se voit, c'est visible. Alors je l'aime d'un amour tout à fait particulier. Et je sais que je dois l'aimer d'un amour tout à fait particulier. Et donc, je dois me mettre à son service d'une manière tout à fait particulière. C'est-à-dire que je dois être plus proche de lui rendre service, si je peux, que par rapport à d'autres. Oui, il ne faut pas hésiter, ça, c'est une chose qui va très bien. Et puis, ceux qui sont le plus proches de moi, au point de vue affectivité, il y a mes amis, mes parents, il y a un lien. Alors évidemment, il y a la séparation de la vie religieuse. On ne traite pas de la question ici. Hein. On doit si. Mais d'une façon générale, le point de vue de l'affectivité de ceux qui sont plus proches de nous, au point de vue de notre moi, eh bien, il y a quelque chose de particulier. Bon. Voyons tout de suite maintenant, si vous voulez, les objections. Première objection. Saint Augustin dit « Tous les hommes doivent être aimés également. » Tous les hommes doivent être aimés également. Mais comme il ne vous est pas possible d'être utile à tous, vous devez principalement vous intéresser à ceux qui, à raison des circonstances de temps et de lieu, ont pour d'autres motifs, ou pour d'autres motifs, ont avec vous quelques rapports plus étroits. On n'est donc pas obligé d'aimer telle personne plutôt que telle autre. Réponse de saint Thomas. L'amour peut être inégal de deux manières. D'abord, du côté du bien que nous souhaitons à un ami. De ce chef, nous aimons tous les hommes également par la charité, puisque tous, nous souhaitons ce même genre de bien, la béatitude éternelle, la sainteté. Secondement, l'amour peut être inégal selon l'intensité de l'acte d'amour. Et dans ce sens, nous ne devons pas aimer également tous les hommes. Donc, petite distinction très intéressante. objectivement, je dois aimer de charité de la même manière tous les hommes, puisque je veux pour tous la béatitude éternelle. C'est évident que c'est ça que vous souhaitez à toutes vos sœurs, à tous vos frères, et pour tous. Mais intensément, au point de vue de l'intensité de l'acte, c'est différent. On pourra dire encore qu'il y a deux sortes d'inégalités dans notre amour à l'égard de plusieurs personnes, de plusieurs individus. La première consiste à aimer les uns et à ne pas aimer les autres. Cette inégalité ne marque dans la bienfaisance. Cette inégalité se marque dans la bienfaisance, car il nous est impossible de faire du bien à tous. Mais elle ne doit pas exister dans la bienveillance de l'amour. La seconde inégalité dans l'amour consiste à aimer les uns plus que les autres. Saint Augustin n'entend donc pas exclure celle-ci, mais seulement la première. Cela ressort avec évidence de ce qui est dit à propos de la bienfaisance. Donc, vous voyez, là encore, ça n'ajoute pas grand-chose à ce qui a été dit, simplement la petite distinction que saint Thomas a fait au point de départ pour nous rappeler que, de fait, on peut dire, d'une façon commune, on aime tout le monde de la même manière, de la charité, parce qu'on veut la béatitude pour tous. Mais on les aime chacun selon une intensité particulière. Oui. Et d'autre part, on peut comprendre que, du côté de la bienfaisance, on est obligé de dire « je peux plus ». Parce que c'est dans le temps. Ma journée est pleine, je peux plus. Et je peux continuer de les aimer tous, affectivement. Du côté affectif, il n'y a pas de limite. Parce que je prie pour tous les hommes. Oui.
En fait, c'est donc plus une différence de modalité qu'une différence d'intensité.
Il y a quand même une différence. Oui, mais ici, dans l'objection, c'est une différence d'intensité de modalité. Tandis que dans le corps de l'article, c'était plus une différence d'intensité. Oui. Saint Thomas répond, et là, c'est beaucoup plus dans l'ordre de l'extension. Oui. Alors, de l'ordre de l'extension, on voit bien. De l'ordre de l'extension, j'aime tous les hommes en leur souhaitant la béatitude. Voilà, aimer tous les hommes de charité. Être responsable de toute l'humanité dans le cœur de Jésus, et c'est souhaiter à tous les hommes la béatitude. L'extension. Intensité, j'aime chacun selon ce que Dieu me met comme lien avec. Puis alors l'autre distinction, c'est plus l'extension. Alors, ce... qu'est-ce qu'il y a ? Le capital, dans quelle façon ? Oui, on ne peut pas aimer extérieurement tout le monde, selon la bienfaisance. Mais selon la bienveillance, je peux aimer tout le monde. Donc, c'est la différence entre l'esprit et le corps, moi, je dirais. Vous voyez ? C'est plutôt la différence entre l'esprit et le corps. C'est que mon corps est limité, il est conditionné. Donc, dans son exercice, il est limité. Il est dans tel lieu, dans tel temps. Tandis que mon âme ne l'est pas. Mon âme est au-dessus. Et donc, je peux, par la charité qui vient transformer mon âme, je peux aimer toute l'humanité et prier pour toute l'humanité. Et même je le dois. Je dois la porter. Oui. Et mon âme est capable de la porter. Mon âme, unie à l'âme du Christ par la charité, est capable de porter tous les hommes. C'est le propre de la charité. Tandis que mon corps n'est pas capable de porter tous les hommes. Ce qui serait réduit à peu de choses.
Quand vous parlez de proximité, c'est une proximité...
Dans le corps de l'artiste, c'est une proximité affective.
Oui, c'est pas une proximité forcément de lieu, parce que la personne est plus proche.
Il y a aussi. C'est ce qu'on va voir. Il y a aussi une proximité affective, une proximité de lieu. Si je suis, pour vous, c'est une proximité, savoir si le frère qui est près de vous, au point de vue de la cellule, au point de vue de votre vie, est-ce que vous devez l'aimer plus ? Mais. Dans le monde, on doit faire attention à ça. Ça, c'est sûr. Mais quand on est dans un immeuble et qu'on ignore complètement les personnes qui sont au-dessus, c'est un manque de charité. Évidemment, si la personne ferme tous ses verrous et ne veut pas vous entendre parler, la charité consiste à ne pas s'apercevoir qu'elle est là. Parce que c'est quelquefois ce qu'on doit faire, comme vous savez. Si vous agacez terriblement quelqu'un, on agace toujours quelqu'un dans sa vie. Tout le temps. Bon, alors, la charité consiste à le voir le moins possible. Et faire un détour stratégique pour ne pas le rencontrer. Par charité. Parce que je sais que je l'agace. Il suffit que je sois là présent pour tout de suite. Donc la charité consiste à le voir le moins possible. Ça m'arrange aussi. Mais c'est par charité. Je purifie le motif en disant c'est par charité. Parce que s'il était autrement, je ferais tout ce que je peux pour le voir. Alors, deuxième objection. S'il n'y a qu'une seule et même manière d'aimer divers individus, on ne doit pas les aimer différemment. Diversi modo. Hein. Or, il n'y a qu'une seule raison d'aimer tous ceux qui composent notre prochain, et cette raison, c'est Dieu, comme dit saint Augustin. Cette raison, c'est Dieu. Ça, c'est assez joli comme manière de dire. Chilichet Dieu, out patet Augustin. Ça, c'est pas dit. Vous voyez, c'est la petite traduction qui l'ajoute. C'est ce qui me semblait bien. Ça m'aurait étonné. Et cette raison, c'est Dieu. Dieu n'est pas la raison au sens propre. Nous devons donc aimer également tous les hommes qui sont notre prochain. Alors, réponse de saint Amand. Tous ceux qui composent notre prochain ne sont pas en égal rapport avec Dieu. Il en est qui sont plus proches de lui parce qu'ils sont meilleurs. Ceux-là, on doit les aimer plus que les autres qui sont moins proches de Dieu. Dans la mesure où nous pouvons le comprendre, les signes. Dans la mesure où nous pouvons le comprendre, c'est sûr. On voit des grands amis de Dieu. Ben, on doit les aimer, les grands amis de Dieu. En premier lieu. Et je dois aimer plus les amis de Dieu que les ennemis de Dieu. Que ceux qui sont ou bien les indifférents. Je dois normalement les aimer plus. Même si ma sensibilité fait que je suis beaucoup plus loin qu'eux. Oui, oui.
Ce sont des signes de sainteté.
Oui, des signes.
Alors, quand Jésus va plutôt vers le pécheur.
Miséricorde.
Oui, donc c'est ça.
Alors c'est ça qu'on va voir, hein. C'est ça qui est très curieux. Et que la miséricorde, c'est pas la même chose. Hein. C'est, je crois, pour ça qu'il y a les deux symbolismes de l'époux et de l'agneau. L'agneau, c'est la miséricorde, et l'époux, c'est l'amour jaloux. Donc c'est la charité. Et c'est vrai, j'allais le dire tout à l'heure, parce que
tu m'as dit tout à l'heure à propos justement de service. Il y a service de charité, service de miséricorde.
Très curieux. Et c'est vrai, il y a des services de charité surabondance. Et il y a des services de miséricorde. C'est pas la même chose. Alors il faut, et c'est là où joue, je crois que c'est là où joue le don de conseil et la prudence. Une prudence éclairée par Dieu. Vous voyez, pour savoir, parce que c'est vrai, il y a des fois où il y a une espèce d'opposition, du moins l'opposition matérielle. C'est pour ça que c'est bon de regarder d'abord la charité, puisque la miséricorde se comprend en fonction de la charité. Parce que la charité est une vertu théologale qui commande la miséricorde. Tandis que la miséricorde n'est pas une vertu théologale. Mais la miséricorde présuppose la charité et elle explicite la charité. Je ne peux pas être miséricordieux à l'égard de Dieu. On dit que je dois aimer Dieu. Et cet amour à l'égard de Dieu est premier. Je dois aimer d'amour le prochain et je dois l'aimer aussi de miséricorde quand il s'agit de celui qui est l'ennemi de Dieu. Alors la dernière est facile. Aimer, dit Aristote, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Or, C'est un bien égal, la vie éternelle, que nous voulons à tous nos semblables. Donc nous devons les aimer tous également. Ça a déjà été dit, ça. C'est facile à comprendre, la réponse. Article 7. Devons-nous aimer les meilleurs plus que ceux qui nous tiennent de près? Alors, on va revenir ici, cette double proximité. Il peut y avoir une petite opposition entre les deux. Parce que ce n'est pas nécessairement ceux qui sont les plus proches de moi qui sont les plus proches de Dieu. Hein? C'est comme ça que ça arrive. Ah, mais dites-le, parce que je n'ai pas ma montre. C'est pour ça que je ne sais plus. J'allais vous le dire. Dites-le, si c'est ça.
24 juillet 1983, deuxième conférence.
Vous voyez donc que lorsqu'il s'agit de cet ordo caritatis, saint Thomas revient toujours sur le même principe, et à partir de là, tout est facile à déduire, que c'est ce lien avec Dieu premier, cette communication, la koinonia, la communion avec Dieu dans l'amour, qui nous lie à Dieu, et qui nous lie à Dieu de cette manière essentielle qui fait que personne n'intervient entre moi et Dieu. Et c'est pour ça que je suis aimé du même amour que j'aime Dieu. Et le prochain, je l'aime du même amour parce que le prochain est appelé à aimer Dieu par le même amour. Et d'autre part, ça c'est le point de vue objectif. D'autre part, puisque la charité est une vertu, vous voyez, toujours amitié, vertu, tout se commande par là. Puisque l'amitié est une vertu, je suis moi-même source de l'exercice de la charité. Si la charité n'était pas une vertu, ça pourrait se faire, ça pourrait se voir que la charité n'est pas une vertu. Je ne serais pas source. Si je suis source, il y a donc un autre principe de proximité qui est moi. Vous voyez, c'est intéressant de voir que tout se ramène à ces deux analogies. Que l'analogie première, c'est l'amitié, que l'analogie seconde, c'est la vertu. Alors, le point de vue objectif et premier, c'est la communication de Dieu par rapport à moi. Le point de vue second, c'est l'exercice même de la charité. Alors, à partir de là, je crois que nous pouvons saisir assez facilement toutes les conclusions de cet ordo caritatis, c'est-à-dire comprendre comment ceux qui sont le plus proches de moi au point de vue du sujet, alors lien affectif, de parenté, le sang, lien affectif d'amitié, qui fait que ça intervient dans l'ordo caritatis, puisque Dieu respecte celui qu'il aime. Il le respecte comme une personne qui a son autonomie, c'est-à-dire qui exerce lui-même la charité. Et puis, l'ordre principal, premier, c'est le lien avec Dieu. Vous voyez ? Alors, on peut, si vous voulez, laisser toute la fin de cette question sur l'ordo caritatis, et puis prendre tout de suite le point de vue de l'acte principal de la charité, c'est-à-dire le point de vue de l'amour intérieur de charité. Question 27. Nous avons maintenant à étudier l'acte de la vertu de charité. Saint Thomas précise, hein, de l'acte de la vertu de charité, vous voyez. Deinde considerandum de actu caritatis, donc l'acte de charité. Ce n'est pas l'acte de vertu de charité, c'est l'acte de charité. D'abord, l'acte principal qui est amour ou dilection. Donc, l'acte principal qui est dilection. L'acte second, les autres actes ou effets dont il est source. Alors, C'est donc la dilection qui est l'acte premier et principal. Auprès du premier, il faut donc se demander, le propre de la charité est-il d'être aimé plutôt que d'aimer ? D'une façon générale, c'est l'amour, ça. Est-ce que l'amour, c'est principal d'être aimé ou d'aimer ? L'amour, acte de charité, est-il identique à la bienveillance ? Dieu doit-il être aimé pour lui-même ? Peut-il être aimé en cette vie sans intermédiaire ? Peut-il l'être totalement ? Son amour doit-il être modéré ? Lequel vaut mieux, aimer son ami ou son ennemi ? Dieu ou le prochain ? Et vous retrouvez là, dans cette analyse de l'acte de charité comme tel, la dilection. Ce n'est pas un sentiment, comme on va le voir, hein. C'est la dilection. C'est cette volonté d'aimer Dieu. Alors, l'acte, premier acte, le propre de la charité est-il d'être aimé plus que d'aimer ? Là, c'est une question très intéressante et très importante. Aristote déclare que l'amitié consiste plus à aimer qu'à être aimé. Donc, la charité, elle aussi, puisqu'elle est une espèce d'amitié. Aimer convient à la charité du fait même qu'elle est charité. Donc, amare convenit caritatis in quantum est caritas. Parce que la charité est un amour d'amitié. Donc, aimer convient essentiellement à la charité. En effet, comme elle est une vertu, quidam virtus, c'est pour ça qu'on met l'acte propre de la vertu, mais vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. En effet, comme elle est une vertu, son être même l'incline à son acte propre. Or, en celui qui est aimé, ce n'est pas l'être qui est un acte de charité, c'est d'aimer. Être aimé évoque simplement l'idée générale de bien, en ce sens qu'un autre lui veut ou lui fait du bien, par acte de charité. Il est donc évident qu'aimer convient davantage à la charité que d'être aimé. Car ce qui convient à une chose par elle-même, par ce qu'elle est, et non par ailleurs, lui convient toujours davantage. C'est évident que ce qui se ramène directement à la charité est quelque chose de plus essentiel que ce qui convient d'une façon accidentelle. Deux faits d'expérience confirment notre conclusion. On loue un ami parce qu'il aime plutôt que parce qu'il est aimé. Bien plus, s'il est aimé et n'aime pas, on le blâme. Les mères modèles de l'amour tiennent plus à aimer qu'à être aimé. On en voit, dit Aristote, qui confie à une nourrice leurs enfants qu'elles aiment très certainement, mais sans s'inquiéter de la réciprocité si elle n'a pas lieu. C'est intéressant, constatation d'Aristote par rapport aux enfants, n'est-ce pas ? C'est un problème très important, celui-là. Vous voyez l'argumentation de saint Thomas. L'argumentation de saint Thomas, c'est de dire tout simplement que la charité est une vertu. Donc, il nous est remis le soin de répondre à l'amour. Dieu nous a aimés le premier. Vaut-il mieux pour nous dire qu'on est aimé de Dieu ? Est-ce que c'est plus important que d'aimer Dieu ? C'est évident que ce qui est plus fondamental, c'est d'être aimé de Dieu. C'est sûr, puisqu'on n'aurait pas la vertu si on n'était pas aimé de Dieu. Mais la vertu de charité n'est parfaitement elle-même que si elle s'exerce en acte d'aimer. Donc, si elle aime Dieu. Alors, Je vais d'abord voir les objections, puis on va revenir. Parce que là, il pourrait y avoir une espèce de position très différente avec les mystiques qui disent qu'il vaut mieux, en premier lieu, se laisser aimer de Dieu. On va voir votre petite objection. C'est la notion d'amitié. Alors, vous pourriez le dire dès le début de l'article, dès le début. Si vous récusez l'analogie de l'amitié, ou si vous ne la récusez pas. Si vous récusez l'analogie d'amitié, je comprends. Si on accepte l'analogie d'amitié, il a le droit d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié. Quoi ? Ah non, faisons attention. C'est analogiquement. Il ne faut pas faire de la métaphysique ici. On est dans la théologie. Donc c'est une analogie. C'est une analogie. C'est une analogie dont il se sert jusqu'au bout. Alors c'était la question de savoir, et vous vous souvenez, on l'avait vu à ce moment-là, je vous l'avais dit, toute une partie Nigresse, la position de Nigresse, la position de beaucoup d'aujourd'hui, dit saint Thomas s'est trompé. En réalité, on n'a pas le droit de considérer la charité comme un amour d'amitié. C'est la position de Nigresse. Et c'est un peu la position de certains aujourd'hui qui considèrent que je n'ai pas le droit de considérer dans l'amour d'amitié, que dans la charité, il y a une amitié. Vous voyez ? Donc, au fond, c'est intéressant parce que on doit tout le temps purifier l'analogie dont on se sert et on doit toujours comprendre que c'est une analogie. N'est-ce pas ? Mais savoir, est-ce que cette analogie est valable ou n'est pas valable ? C'est pour ça qu'on va y revenir. Ça va être quelque chose de particulièrement intéressant. Première objection. Il semble que ce soit d'être aimé. Meilleur est la charité dans ceux qui sont les meilleurs. Mais ce sont eux aussi qui doivent être le plus aimés. Les meilleurs, réponse de saint Thomas, les meilleurs sont par là même plus aimables aussi par leur charité plus parfaite, mais toutefois en proportion de la bonté de l'objet aimé. En effet, celui qui est meilleur n'aime pas son inférieur moins que celui-ci n'est aimable, mais il n'arrive pas à être aimé par ce dernier autant que lui-même est aimable. Donc, autrement dit, saint Thomas prend ici l'analogie du supérieur qui aime l'inférieur, ce qui est l'analogie de l'amour d'amitié. Puisque Dieu est toujours celui qui nous aime en premier lieu. Et nous sommes toujours aimés par Dieu en second lieu, c'est évident. C'est lui qui nous a aimés le premier. S'il ne nous aimait pas, la charité n'existerait pas. N'est-ce pas ? Donc il reprend tout simplement l'analogie de l'amitié à l'égard du supérieur et à l'égard de l'inférieur. Mais c'est toujours une amitié. L'amitié n'exige pas l'égalité. Toujours ça que nous avons comme difficulté. L'amitié n'exige pas l'égalité. Nous sommes tellement enclins à l'égalité aujourd'hui, et c'est la grande objection de Nigrens. L'amitié n'exige pas l'égalité. L'amitié peut exister entre des êtres très différents. Entre un être qui est supérieur et un être inférieur. Parce que c'est de l'ordre de l'amour proportionnel. Ce n'est pas l'égalité. Donc il peut y avoir une véritable amitié entre le Créateur et la créature. N'est-ce pas ? Alors, seconde objection. Ce qui se rencontre dans le plus grand nombre semble plus conforme à la nature. Et par conséquent meilleur, la statistique. Or, en croire Aristote, beaucoup aiment mieux être aimés qu'aimés. La preuve en est que le plus grand nombre de ceux qui aiment, la preuve en est que le plus grand nombre de ceux qui aiment qu'on les flatte. Réponse de saint Thomas. Ainsi que le philosophe le dit aussi, les hommes désirent être aimés pour la même raison qu'ils désirent être honorés. Comme l'honneur, l'amour témoigné à quelqu'un atteste qu'il possède un certain bien, car le bien seul est aimable. On aime d'être aimé, parce que ça nous donne du courage. On dit, après tout, je ne suis pas si mal, puisque je suis aimé. Vous voyez, c'est ça que saint Thomas souligne. Hein. C'est qu'au fond, ainsi que le philosophe le dit aussi, les hommes désirent être aimés pour la même raison qu'ils désirent être honorés. Ça leur donne un petit peu de confiance en eux. Je vous aime beaucoup, croyez-le, donc vous n'êtes pas si bêtes. Vous n'êtes pas si mal puisque je vous aime beaucoup. N'est-ce pas ? Et c'est vrai, ça donne confiance. Des êtres qui n'ont jamais été aimés, ou qui ont été peu aimés, ont peu de confiance en eux. C'est presque toujours ce qui arrive. Des êtres qui ont été très aimés, et ça c'est la responsabilité des mères, des êtres qui ont été très aimés augmentent la confiance qu'on peut avoir en soi. Ouais, c'est pour ça que très souvent on dit que l'angoisse qui fait qu'on n'a pas confiance en soi provient du fait qu'on n'a pas été assez aimé. Et plus on est fragile, plus on dépend du fait d'être aimé. C'est une constatation qui est très importante à souligner d'ordre psychologique, d'ordre humain, mais c'est très important. Comme l'honneur, l'amour témoigne à quelqu'un, donc l'amour qu'on témoigne à quelqu'un atteste qu'il possède un certain bien, car le bien seul est aimable. Être aimé, être honoré, sont donc recherchés pour autre chose qui est de manifester un bien que l'on possède. Au contraire, ceux qui possèdent la charité veulent aimer pour aimer, comme si c'est le seul bien pour la charité, de même que tout acte d'une vertu est le bien pour cette vertu. Il appartient donc davantage à la charité de vouloir aimer que de vouloir être aimé. Très fort. Oui. C'est très fort parce que ça montre la charité, l'amour dans ce qu'il a de pur. Et non pas dans ce qu'il a d'à côté. Jean-Thomas souligne que être aimé, d'une façon générale, donne confiance à celui qui est aimé. Parce que si je suis aimé, ça prouve qu'il y a en moi un bien. Mais qu'il y a en moi un bien, c'est autre chose que l'amour. Puisque l'amour se porte vers l'autre. Donc c'est plus pur d'aimer que d'être aimé. C'est, je crois, l'argument le plus fort, ça. Troisièmement, ce qui fait que quelque chose est tel, et soi-même tel, et encore davantage, or être aimé, fait aimer. Saint Augustin le dit très bien. Rien ne provoque plus à aimer que d'aimer le premier. Donc, si aimer est le propre de la charité, être aimé l'est encore davantage. Ce qui est source. Réponse. Le fait d'être aimé, parce qu'on est aimé, ne prouve pas qu'être aimé soit fin par rapport à aimer, mais un certain moyen capable de faire aimer. Condition sine qua non pour aimer. Être aimé nous aide à aimer. Mais si être aimé nous aide à aimer, ça ne veut pas dire que c'est supérieur à aimer, parce que ce n'est pas la finalité. La finalité de l'amour, c'est d'aimer. Oui. La finalité de l'amour, c'est d'aimer. La finalité de l'amour, ce n'est pas d'être aimé. Donc l'amour n'est parfaitement pur que quand il aime. Voilà l'argumentation de cet homme. Alors ça n'a rien à voir avec Aristote. C'est tout simplement la raison d'aimer. Si la charité est amour, la charité doit avoir comme premier acte ce qui est propre à l'amour. Ça, la raison profonde. Moi, je le dirais comme ça aujourd'hui, sans citer Aristote. Saint Thomas peut citer Aristote parce qu'au Moyen-Âge, ça n'avait pas d'inconvénient. Aujourd'hui, c'est un inconvénient. Alors, Saint Thomas peut très bien, on pourrait très bien dire ça, que la charité est un amour. Vous êtes tous d'accord. C'est un amour divin. Si c'est un amour divin, il est plus amour que n'importe quel autre amour. Qu'est-ce qui caractérise l'amour? C'est le don de soi. Aimer, c'est se donner. Donc, ce qui caractérise l'amour, c'est de se donner. Donc, c'est plus charité d'aimer que d'être donné, que d'être aimé. Oui. Alors, on va revenir à la question, parce que ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. Les mystiques disent, n'est-ce pas ? Je reprends la phrase. Les mystiques disent, il vaut mieux avoir une attitude de passivité qu'une attitude plus active. Or, dans l'attitude de la passivité, laissez-vous aimer. Et c'est plus parfait de se laisser aimer que d'aimer. Hein? Alors, saint Thomas, ici, va en contradiction avec la mystique. C'est embêtant, hein?
Je dis, bon, regardez ça, très. De façon très nette. Hein. Alors, on peut toujours s'en tirer. Hein. Toujours s'en tirer. Saint Thomas est en théologie scientifique, donc, vous voyez bien, on n'est pas en théologie mystique. Mais c'est ennuyeux quand même, hein. C'est un petit peu ennuyeux. C'est un petit peu ennuyeux de voir ça. Là, il faudrait peut-être essayer de comprendre. L'attitude mystique consiste à dire. Laissez-vous être aimé de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un mystique dit ça, il faut bien le comprendre. Hein? Ça ne veut pas dire la passivité, la quiétude. Se laisser aimer, dormez bien, vous êtes aimé de Dieu, ne faites rien, le tout c'est dire Dieu m'aime, c'est parfait. Pendant ce temps-là, je laisse Dieu. Mais, alors c'est le ronron du petit chat en face du feu qui n'est pas le vol de l'air. Verdun disait, distinguons bien le ronron du petit chat du vol de l'aigle. Alors, est-ce que être aimé de Dieu, ça peut s'identifier avec le ronron du petit chat? Ah, je suis très aimé de Dieu, je le sais. Alors, je me laisse aimer. C'est tout. C'est beaucoup mieux. Je suis dans le berceau. Dans le berceau, in sinu patris. Donc, je suis dans le berceau. Je me laisse aimer. Et puis, je sais que Dieu m'aime. Je me laisse aimer. Laissez-vous aimer par Dieu, c'est beaucoup plus parfait que de faire des actes d'amour. Hein? On pourrait dire ça. Alors, est-ce que c'est tout à fait juste? C'est une interprétation fausse de ce que dit le mystique. C'est une interprétation psychologique. Et l'interprétation psychologique par rapport à la mystique est toujours très dangereuse. Parce que le mystique ne se place pas du tout du côté psychologique. Et que nous, aujourd'hui, nous sommes tellement plongés dans la psychologie que nous interprétons tout le point de vue des mystiques d'un point de vue psychologique. C'est là où il est nécessaire de passer par la théologie scientifique, à cause de ça, pour ne pas tomber dans ce travers. Parce que quand le mystique dit ça, le mystique ne supprime absolument pas votre acte d'aimer. Mais il veut dire aimer sous le souffle de l'Esprit Saint. Aimer en laissant l'Esprit Saint vous porter, mais aimer. Donc, ce n'est plus la question de saint Thomas, est-il plus parfait d'être aimé ou d'aimer? C'est tout simplement la question qu'il faut être docile à l'Esprit Saint et laisser l'Esprit Saint avoir les initiatives. C'est tout à fait différent. Parce que la passivité, c'est le vol de l'aigle. Dans le vol de l'aigle, je sais que je suis emporté par l'Esprit Saint et je réponds. Donc, je me donne. Aucun mystique ne dira qu'il est plus parfait de ne pas se donner que de se donner. Jamais ça. Donc, il faut se donner. Se donner totalement, mais se donner sous la mouvance de l'Esprit Saint. En dépendance de l'Esprit Saint. Donc, laissez l'Esprit Saint nous emporter pour que, étant pris par l'Esprit Saint, nous puissions nous donner. Nous donner activement. Mais activement, c'est-à-dire se donner, c'est-à-dire aimer. Donc, vous voyez, il n'y a pas de contradiction avec saint Thomas. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de contradiction avec saint Thomas. Il y a tout simplement le fait de comprendre que se donner, s'aimer, à deux exercices différents. Alors, la dilection dont parle saint Thomas ici, c'est-à-dire l'acte d'amour. L'acte d'amour restera toujours aimé. Là, je crois qu'on ne peut pas dire autrement. L'acte d'amour, c'est aimer. C'est aimer, donc, se donner. On ne peut pas être autrement. C'est ce qui caractérise l'amour. Et ceci caractérise tout amour, qu'il soit un amour humain ou un amour divin. Dans l'amour divin, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est que je suis d'abord aimé. Prior dilexit mons. Le Christ nous a aimé le premier. Et mon acte d'amour reste toujours en dépendance de ce premier acte du Christ. C'est bien évident. Ce premier acte d'amour du Christ qui me porte dans mon acte d'amour. Je ne peux pas faire un acte d'amour sans la coopération avec le Christ. Puisque c'est lui qui m'a aimé le premier. Et je réponds à son amour. Alors, si je réponds à son amour, je peux répondre à son amour de deux manières. En étant porté par son esprit. Alors, je réponds grâce au don de sagesse. Avec un exercice divin, l'exercice divin de l'amour, qui est d'aimer sous le souffle de l'Esprit Saint. Donc, en me laissant porter par l'Esprit Saint, mais en aimant moi-même. Donc, il y a un acte d'amour, c'est bien évident, mais dans le souffle de l'Esprit Saint. C'est ça qui est le plus parfait. Oui. C'est de répondre sous le souffle de l'Esprit Saint pour rejoindre ce premier amour. Et alors, à ce point de vue-là, je comprends très bien qu'on peut dire, laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer, c'est de comprendre ce premier amour du Christ et de répondre sous le souffle de l'Esprit Saint. Oui, ce n'est pas du tout psychologique, hein. C'est tout à fait différent. Laissez-vous aimer, c'est-à-dire comprenez que le Christ vous a aimé le premier, qu'il vous attire. C'est l'attraction du Christ sur lui. Et cette attraction du Christ sur nous ne peut s'exercer que si nous-mêmes nous répondons à son attraction en aimant et en aimant avec le don de sagesse. Il peut y avoir un autre exercice de l'acte d'amour quand le don de sagesse n'est pas là. N'est-ce pas ? Je veux aimer. Et j'exerce alors cet acte d'amour. Et alors, c'est ici où encore le point de vue mystique intervient en disant, attention, ne mettez pas l'accent sur l'aspect volontaire. Si vous mettez l'accent sur l'aspect volontaire, vous supprimez la possibilité pour l'Esprit Saint de venir vous prendre. Mettez l'accent sur l'aspect amour. Donc sur la finalité, sur l'attraction du Christ sur nous. C'est pour ça que je, personnellement, je prends toujours le point de vue de l'attraction. C'est ça, je crois, qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui, à cause du climat psychologique. Parce que si vous insistez trop sur laisser aimer, psychologiquement, on aura cette attitude de passivité. Mais qui ne sera pas une passivité divine. Parce qu'il n'y aura pas la coopération avec le souffle de l'Esprit Saint. Il n'y aura pas la coopération avec le Christ. Et ce sera une attitude de passivité. Je ne sais pas si je m'explique suffisamment nettement, et c'est important de comprendre cela, parce qu'autrement, on mettra une opposition entre ce que dit saint Thomas et ce que les mystiques disent. Alors, je vais essayer de comprendre la différence du langage de saint Thomas ici et le langage de théologie mystique. Saint Thomas est dans l'analyse. Il essaie d'étudier l'acte propre de la charité. Voilà ce qu'il regarde. L'acte propre de la charité, c'est évidemment aimer. C'est évident, il ne faut pas être autrement. L'acte propre de la charité, c'est pas être aimé. Parce que cet acte propre de la charité, être aimé, est antérieur à mon acte d'aimer. Il faut être aimé pour aimer. Il est antérieur, donc il n'est pas l'acte. Il n'est pas ma réponse. Or, ce que je regarde, c'est ma réponse à Dieu.
si Dieu me donne l'habitus de charité, si Dieu me donne la charité, c'est pour que je m'en serve. C'est un talent que je dois exercer. Je ne dois pas dire, la seule chose importante, c'est de dire, je suis aimé de Dieu, c'est suffisant. Non, ce sera possible. Je dois exercer ce talent. Et en fond, c'est ce que saint Thomas montre en théologie scientifique, que l'acte propre de la charité, c'est d'aimer. Quand je suis dans une perspective de théologie mystique, je ne me pose pas la question de savoir quel est l'acte propre de la charité. Je le sais. J'essaie de comprendre la modalité la plus parfaite de l'acte propre de charité. Et je dis, cette modalité la plus parfaite de l'acte de charité, c'est de comprendre que je suis aimé du Christ et que j'aime le Christ sous le souffle de l'Esprit Saint. C'est donc de comprendre que l'acte de charité n'est parfait que quand il est sous la mouvance de charité, sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et alors à ce moment-là, je coopère, c'est bien évident, j'aime, mais ce n'est plus cette volonté d'aimer qui domine, c'est de me laisser emporter par l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'au point de vue mystique, j'insisterai sur ce point de vue-là. Tandis qu'en théologie scientifique, j'insiste sur le propre de l'acte de charité qui implique d'être aimé, qui implique aimer.